и жемра вешера то, а примора веспера.
Chers auditeurs, chers amis, c'est l'émission traditionnelle de Jacques Trémolette-Villers, donc une fois par mois. Notre ami Jacques Trémolette-Villers n'est pas encore là, je prends sa place en quelque sorte. Et nous recevons ce soir Pascal Cauchy, professeur à Sciences Po, que vous connaissez puisqu'il vient presque régulièrement sur cette antenne pour donner son avis et essentiellement sur les questions d'ordre international. Alors donc, je me tourne vers vous, Pascal. La situation internationale évolue tous les jours. On est tous suspendus au prochain discours et à la prochaine éructation de Donald Trump, aux subtilités des Iraniens pour échapper à toute contrainte, quelle qu'elle soit. Et finalement, ça aboutit à un conflit qui perdure malgré les apparences, même si c'est en principe il y a une trêve. Cet incendie s'est propagé sur tout le Moyen-Orient, risque de se propager sur le monde entier, surtout par la crise pétrolière et gazière qui s'ensuit. Bref, il y a le détroit d'Ormuz, il y a peut-être bientôt celui de Bab el-Mandeb, si jamais les Houthis se mettent dans la danse. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et ce qui me frappe, c'est l'inutilité des discours des uns et des autres, et principalement d'ailleurs de notre Macron national qui se déplace à travers le monde et qui essaye de faire semblant d'exister, qui fait des discours. Pendant ce temps-là, ses soldats meurent. Et je trouve qu'il y a une situation qui est tragique et qui peut devenir une grave pour la France. Alors, je me tourne vers vous, Pascal, et dites-nous votre avis sur cette question qui intéresse tous les amis.
Merci, Hilaire, de votre invitation. Effectivement, comment commenter le grand désordre mondial ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Mais c'est un grand désordre.
Je crois que nous avons vécu, vous et moi, des grands segments de l'histoire. Il y a eu la guerre froide. Il y a eu le deuxième temps, celui que nous avons appelé dans un premier moment la globalisation, pour reprendre le mot américain.
Oui.
Nous avons ensuite traduit plus heureusement de mondialisation. Il y a eu cette période un peu étonnante des années 90-2000, une vingtaine d'années à peu près, où on parle peut-être de l'hégémonie américaine, sans doute avec raison, mais aussi peut-être de façon un peu exagérée. Néanmoins, c'est vrai que nous avons eu à un moment donné le sentiment d'une planète globale, c'est-à-dire où tous les voyages, toutes les mobilités étaient possibles.
Et Macron est né là-dedans.
Il
est né là-dedans.
Peux vous dire qu'il a même connu les enseignements qui ont justement, d'une certaine façon, à la fois expliqué et justifié cette mondialisation. Il a suivi les enseignements de M. Salamé, qui était géopoliticien.
Enfin, d'Alamac. D'Attali.
Attali. Bertrand Badie, que vous entendez souvent actuellement commenter la crise. J'en parlerai parce que là, nous avons effectivement affaire à toute une école de pensée qui a, à un moment donné, cru qu'il était possible de créer un monde sans frontières, un monde
où l'économie serait primordiale. Et avec une finance adaptée.
Oui, avec une finance adaptée. Primordiale, non, parce que c'était quand même le temps où un certain nombre de questions sociales qui devenaient un peu paradoxalement sociétales,
oui.
Vous vous souvenez de cela,
bien sûr.
Ont pris le pas justement sur une explication de type social héritée, oui. Héritée du 19e siècle, Marx, oui. Et bien d'autres.
Hein. Oui.
Donc ça c'est une période mais qui s'est achevée aujourd'hui. Et beaucoup, et je pense que ce soit Emmanuel Macron et autres, moi-même,
sont dépassés.
On est tous un petit peu dépassés avec ce qui depuis en gros... Il est difficile de dater, évidemment, la fin de cette période, parce qu'elle n'a pas vraiment de fin marquante. Je retiens juste, pour la simplicité, le fameux discours de Munich de Vladimir Poutine en 2007.
Oui, il annonce
la fin de la mondialisation. En disant, il annonce plus exactement la nécessité de penser un monde multipolaire.
Oui, alors je pense que nos auditeurs suivent très bien. Et ça, c'est ce que les juristes internationalistes... ont appelé l'ordre international.
L'ordre international.
Donc
avec
Macron
son corollaire
s'attache
qui était
à cet ordre international.
Oui, avec son corollaire qui était l'état de droit.
Voilà, et qui s'appelle l'état de droit, absolument.
C'est-à-dire un gouvernement par la règle morale.
Oui, mais d'une drôle de morale d'ailleurs.
D'une drôle de morale, mais on peut en faire la généalogie, mais là ça nous emmènerait trop loin.
Avec la définition d'un bien et d'un mal.
Exactement.
Juridico-moral.
C'est l'axe du mal défini par M. Bush.
Oui, ça peut être ça, mais enfin, c'est aussi le progressisme de Macron.
Tout à fait. Ça,
les sociétés libérales.
Ce sont les sociétés ouvertes.
Ouvertes.
Par rapport à des sociétés fermées, Karl Popper l'avait déjà dit.
Voilà, pour qui l'ennemi est ce qu'on appelle l'illibéralisme.
Ce sont ces mots nouveaux qui ont été effectivement créés,
à cette époque-là. Et donc l'essentiel, c'est d'universaliser l'avortement, l'euthanasie. Ça, c'est les grands points doctrinaux. Et puis, pour le reste, c'est une espèce de confiance dans une finance et une économie internationale qui fait que c'était l'époque où pratiquement dominaient les gens de Soros et puis le forum de Davos.
Oui, avec des éléments matériels tangibles. Quelques exemples. Rappelez-vous, 1995-1996, en France, c'est le développement d'Internet.
Oui.
L'Internet particulier, individuel, qui faisait beaucoup de bruit. Vous savez, c'était cette petite boîte à côté d'un micro-ordinateur, aussi objet nouveau qui entrait chez les particuliers. La possibilité pour chacun, tout d'un coup,
de communiquer
avec le monde entier et s'affranchir de la poste et du timbre.
C'est ça.
Ensuite, nous avons eu, parce que la guerre froide l'a permis, la libération du ciel. Et nous avons vu au même moment le coût des voyages s'effondrer, les voyages aériens. Ils se sont effondrés. Et si vous prenez les dates de création des grandes compagnies dites low cost, donc à bas coût, maintenant qu'il y a un petit cochon devant moi, c'est le moment où vous pouvez faire un voyage. Moi, je vois tous les jours des publicités. Faites aller à Berlin pour 30 euros. Oui. Ce n'est pas le coût réel, évidemment. Mais désormais, vous n'avez plus un salaire complet pour aller au Japon.
Oui.
Vous pouvez y aller pour, disons, des sommes beaucoup plus réduites.
Modeste.
Conséquence, une grande mobilité, une plus grande mobilité des personnes par
l'air. Et la création d'une classe de gens qui... Je pense que la mobilité est l'essentiel de la vie.
Tout à fait. Et c'est même, et non seulement mobilité des individus, mais mobilité des marchandises. Toujours pareil, dans le segment des années 90, qu'est-ce que l'on voit apparaître? Eh bien, ces fameuses boîtes, elles existaient déjà.
Oui.
Ces fameuses boîtes que l'on va pouvoir empiler sur de gigantesques cargos.
Oui.
On va presque oublier les Torrey Canyon, ces gros tankers, c'était le mot de l'époque, dans les années 70, pétroliers, qui vont être remplacés désormais par de gigantesques navires remplis de boîtes de toutes les couleurs qui vont permettre de faire arriver un peu partout sur tous les continents de merveilleux produits, comme par exemple ce petit téléphone à bas prix. Donc, quand je parle de mondialisation, c'était aussi...
Et fabriqué
à l'autre bout du monde.
À des prix défiant toute concurrence.
Tout à fait, avec un acteur particulier qu'on avait vu venir, mais quand même. Pas si vite, pas si fort, la Chine. C'est vrai que, là encore, dans cette période de mondialisation heureuse, la Chine commençait à sortir du bois. Il y avait eu ce refroidissement en 1989, rappelez-vous, parce que 89, ce n'est pas que le mur de Berlin, c'est Tiananmen. Et il y a eu, pendant 10 ans, non pas une fermeture, mais une rétraction de la Chine par rapport au reste du monde. À partir de 2000, ce n'est plus le cas. Elle intègre l'OCDE, elle intègre un certain nombre d'organisations internationales,
l'OMC,
etc. L'OMC. Et donc, on voit apparaître un nouvel acteur, on s'en réjouit. Rappelez-vous, les déclarations de M. Raffarin, par exemple, en France.
Ah bah lui, il a vécu de ça. Il s'est d'ailleurs complètement trompé, mais bon, c'est pas le seul.
Il a été un des grands promoteurs de l'idée qu'il fallait coopérer avec la Chine. Il a organisé des voyages industriels et autres, pensant que nous allions vendre à la Chine. C'est le contraire qui s'est produit. Et donc, c'est un acteur avec lequel il faut compter désormais. Et je pense que si on essaie de faire un petit panorama du grand désordre du monde, au centre quand même du dispositif, on va toujours retrouver la Chine. Et j'essaierai dans un instant de vous expliquer pourquoi. Et puis, donc, il y a ce troisième temps un peu désordonné. Je le fais commencer en 2007, commence-t-il peut-être un peu avant. Déjà, après tout, 2001, l'affaire de New York, l'affaire des tours, montre qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans le monde merveilleux de M. Bush. Et malgré des élargissements de nouveaux espaces, 1992, toujours dans la mondialisation, traité de Maastricht, c'est le Mercosur. C'est le développement de l'AELE, l'autre organisation en Extrême-Orient. Donc, vous voyez, il y a quand même tout un dispositif qui, à un moment donné...
Et le rêve de Bush, d'ailleurs, à l'époque, c'était de construire au Moyen-Orient une société démocratique.
Absolument.
Et pacifique, évidemment, mais pour lequel il fallait d'ailleurs faire la guerre.
Tout à fait. Donc, tout ce système est quand même, à un moment donné, écorné dans ces années 2010. Vous parliez de ces nouveaux mots comme les fameuses démocraties illibérales. C'est celle qui, par exemple, commence à contester le bien fondé, justement, du traité de Maastricht.
Bien sûr, bien sûr.
La Hongrie, M. Orban vient de quitter le pouvoir, mais il n'y avait pas que la Hongrie à l'époque. La Slovaquie, ces nouveaux pays que l'on considérait un petit peu comme un peu nos mauvais élèves, ou plus exactement comme des ingrats.
Et puis en France, ça a suscité une opposition qui a commencé à se concrétiser, qu'on a appelé le souverainisme.
Et ses adversaires ont appelé le populisme.
Oui,
c'est ça. Ces mots ont leur histoire. Et ça correspond assez bien à cette deuxième vague qui nous apporte les grands désordres que nous connaissons
actuellement. Et ça permet de comprendre la pensée d'un Macron. Pour Macron, l'ennemi, c'est vraiment ce qu'il appelle le populisme.
De toute sa génération.
Je crois que
de toute sa génération. Vous prenez, peut-être à quelques années de distance, mais même un Merz... d'une certaine façon, Madame von der Leyen aussi.
Ah bah, voilà,
peut-être.
Il s'y ajoute quand même une pensée spécifiquement germanique.
Alors là, effectivement, tout à fait.
Mais il y a une sorte de...
j'ai oublié M. Trudeau au Canada.
Oui, Trudeau au Canada.
Vous vous souvenez. Donc oui, il y a effectivement une génération, c'est une génération qui est née dans les années 70, a certainement été portée par cette vague de la mondialisation heureuse, qui ne correspond pas non plus à peut-être aussi la réalité sociale de la même génération, parce que tout le monde ne se reconnaîtra pas dedans.
Et c'est ça ce qui, à votre avis, est en train de s'enrayer.
Alors, c'est déjà enrayé.
C'est déjà enrayé.
Et la guerre, et là j'en viens un peu au propos liminaire que vous disiez, que vous annonciez. Cette guerre, on ne va pas la commenter ce soir. Je crois qu'il y a aujourd'hui 1000 commentaires, à savoir un bateau passe-t-il, ne passera pas. Enfin bon, bref.
Quand même, vous pouvez donner votre...
Je peux dire une chose.
Votre sentiment, votre avis tel que... Parce que chacun le donne... Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de commentaires et qui souvent sont controuvés par la réalité. On a pensé qu'il y a encore une semaine ou deux semaines que, en fait, Trump, malgré ses cris de victoire, avait perdu. Il y a encore des gens qui soutiennent ça. Moi, je ne suis pas absolument sûr. D'abord parce que c'est une force militaire considérable, donc je ne vois pas très bien... Mais il a perdu dans son objectif, sans doute, ce qu'il voulait faire. Et puis bon, il faut dire que les propos de Trump sont tellement extravagants. Évidemment, c'est que ces mots ne servent pas, évidemment, sa politique. Et, bon, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait, dans cette affaire, évidemment, mener une politique très forte et en même temps aussi discrète que forte. Mais bon. Ce n'est pas le cas, puisqu'il a besoin de faire valoir son ego. Ils sont tous pareils. Macron est du même ordre, en réalité. C'est des discours. Pourquoi ?
D'autant qu'ils ont certainement très peu de prise sur l'événement lui-même.
Bien sûr, Macron n'a aucune prise.
Donc, je dirais que ces discours sonnent d'autant plus faux qu'ils ne correspondent pas vraiment, non seulement à l'événement, ou ne sont peut-être pas à la hauteur de l'événement, ils ne l'expliquent pas, en tous les cas. Et il ne donne certainement pas l'aperçu nécessaire sur à la fois la longue durée et sur l'ampleur du phénomène de guerre que oui. nous connaissons actuellement, ou, oui. tout, ou plus largement même du phénomène de désordre mondial oui. que j'énonçais tout à l'heure. Alors, une fois dit ça, une fois ceci posé, on peut peut-être quand même considérer d'abord cette guerre au Moyen-Orient, d'abord comme une guerre de grande intensité.
Oui.
Elle a commencé, du moins dans sa phase initiale,
par les bombardements massifs.
Par les bombardements massifs, mais il faut revenir sans doute à 2023.
Oui.
Les massacres de part et d'autre de la frontière de Gaza,
oui.
le bombardement massif de Gaza par l'armée israélienne, le ricochet au Liban, cette fameuse guerre de 12 jours, mais en fait qui est dans un même élan finalement militaire d'affrontement considérable quand on voit à la fois les forces engagées, l'armement et évidemment les victimes, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas là d'une petite guerre comme nous en avons connu. Rappelez-vous les intifadas avec les pierres et autres qui ont fait
bien
des
sûr,
victimes, mais ça n'a absolument rien à voir. Là, nous sommes dans une guerre de grande intensité compte tenu des moyens utilisés.
Bon. Et des moyens mis sur place. Parce que,
et des moyens mis sur place.
Il faut se rendre compte de ce que les Américains ont placé là-bas au Moyen-Orient. Ce sont c'est de l'ordre maintenant, je crois, de 20 000 à 30 000 hommes.
Tout à fait.
Et parmi les meilleures troupes, les commandos tout à fait spécialisés, et puis d'autre part, une marine abondante, infiniment plus abondante que la nôtre.
Ce qui nous complique en plus, c'est que cette guerre de grande intensité en chevauche une autre,
oui.
celle entre la Russie et l'Ukraine.
Bien sûr.
Guerre qui a commencé, je le rappelle, en 2022. Donc vous voyez, il y a quand même un segment long, ça va faire maintenant 4 ans,
oui.
que le monde est quand même suspendu au mot « guerre ».
Oui. Bien sûr.
Il l'est, et c'est encore une fois une guerre, comme disent les politologues, de grande intensité.
Et ne parlons pas des guerres qui se déroulent en Afrique et que
le Soudan,
dont personne, personne ne parle.
Ne parle, bien entendu, voire des guerres plus courtes, mais qui ont pu inquiéter le monde, par exemple, la résurgence du conflit entre le Pakistan et l'Inde.
Oui.
Il n'y a pas si longtemps.
Et qui peut reprendre du jour au lendemain.
Qui peut reprendre du jour au lendemain. Mais bon. Il y a un segment, 2022 à nos jours, là, 4 ans déjà, où le monde vit au rythme de conflits forts. C'est un fait. Alors maintenant, on ne va pas peut-être commenter, parce que nous n'avons quand même pas beaucoup d'éléments encore aujourd'hui, ce que l'on peut dire. Quand même, c'est que 4 ans de guerre dans le monde, de forte intensité, révèlent un certain nombre de choses, ou du moins permettent, à mon avis, de révéler peut-être quelques formes de l'état du monde aujourd'hui.
Oui, oui.
Et c'est un peu de cela dont j'aimerais faire le tour.
Faites le tour de cette question.
Parce que, en définitive, la guerre, vous le savez, c'est aussi une forme de remembrement de la planète, remembrement souvent politique, mais pas seulement, social aussi, culturel sans doute. Faisons un petit tour d'horizon d'abord pour le Moyen-Orient. Pour Israël, par exemple. Pour Israël, c'est une guerre de grande intensité qui maintenant dure depuis 3 ans. Mais qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle, et je vais faire toujours à chaque fois une sorte un peu de bilan, fragilité et résistance. Fragilité...
On dit résilience maintenant.
Oui, non, je ne prends pas ce mot. Pardon. Je ne prends pas ce mot qui fait aussi partie du vocabulaire venu des États-Unis.
On voit que vous n'avez pas d'affectation.
Voilà. Bon. Et donc, c'est quand même un pays qui, finalement, est en guerre depuis 1948,
oui.
depuis son existence.
Bien sûr.
Et donc, la fragilité, c'est
avant.
Quoi? Et même avant.
Même avant.
Partons simplement de l'état d'Israël.
Oui.
Et là, quelle est sa fragilité? C'est ce que nous montre aussi ce conflit. C'est sa fragilité, c'est simplement de ne pas être en mesure, de ne pas être capable d'établir la paix. De ne pas être capable d'établir la paix, ça se manifeste par un pied de guerre permanent, un état de guerre quasi permanent, une conscription considérable.
Une nation armée.
Une nation armée, c'est Sparte, d'une certaine façon. Ça se manifeste par quoi? Par des zones d'occupation. Le Golan, le Liban Sud.
La Cisjordanie,
qui est doublée d'une colonisation qui
Bien
peut
sûr.
Aussi s'évertuer extrêmement violente. On l'a vu récemment encore, où il y a eu des heurts.
En particulier en Cisjordanie.
Voilà, en Cisjordanie.
C'est même honteux.
Donc, finalement, tout cela montre quand même... Là aussi, on ne doit pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une nation qui est extrêmement vulnérable.
Oui,
l'état de guerre permanent montre une vulnérabilité, en même temps que, évidemment, cela montre une certaine force où là, on s'aperçoit que, finalement, cet état peut survivre dans une situation...
C'est même la condition de sa survie.
C'est même la condition de sa survie.
Oui.
Donc, mais il y a des résistances. Le lien entre États-Unis et Israël, que l'on croyait quelque peu amoindri, affaibli.
Avec Bush, il est vraiment resserré.
Et là, voilà, et là on s'aperçoit qu'effectivement... Ben,
le gendre, il n'y a pas que le gendre, il y a vraiment une influence. Comment s'appelle-t-il
parler de M. Vance.
M. Kent, là, qui a donné sa démission, parce qu'il trouvait, alors qu'il était un soutien de Trump, il trouvait que la politique de Trump était beaucoup trop liée, sinon à Israël, en tous les cas, à la politique de Netanyahou.
Tout à fait.
Et il l'a dit.
Il l'a dit. Et je crois même que le vice-président n'était pas trop pour non plus.
Oui, bien sûr.
Un suivisme, d'une certaine façon. Enfin, on en saura un peu plus, sans doute plus tard, sur véritablement ce qui s'est passé. Pour l'instant, me semble encore un peu trop tôt. Le Liban, qu'est-ce qui nous manifeste dans cette guerre? La triste instabilité et même l'impossibilité de construire un État. Alors, d'où cela vient-il? Là aussi, ce n'est pas nouveau, malheureusement. C'est sans doute le rêve, sans doute généreux, mais complètement farfelu des Français au moment du mandat, de vouloir créer là où l'Empire ottoman avait finalement établi une paix un peu rude, disons-le.
Par une domination,
une souveraineté, parfois un peu sourcilleuse, un peu ombrageuse, mais qui avait permis aux grandes familles, aux grands clans de se maintenir d'une vallée à l'autre, tout en respectant les confessions, respectant même les langues particulières, etc. Voilà.
Le multiculturalisme a prouvé ses limites.
Et là, on voit bien que le système français ne fonctionne pas. Et là, ça date depuis 1983. Oui. Donc le désordre mondial dont on nous parle aujourd'hui n'est pas si neuf que cela si on va se promener sur les côtes du Levant, de l'ancienne Palestine à l'ancien mandat français.
Et avec le développement, en plus de ça, d'un islamisme ravageur et terroriste qui fait que les chrétiens deviennent minoritaires. C'était quand même, les chrétiens qui faisaient l'équilibre de cette partie du monde.
Ils étaient majoritaires à Bethléem, je crois, encore dans les années 70.
Oui, encore. Les Arabes, les Arabes chrétiens.
Alors, vous voulez intervenir. Donc, continuons, si vous voulez bien, ce petit tour d'horizon. Donc, vulnérabilité, résistance, à chaque fois. L'Iran, là, c'est pareil. On nous avait annoncé la possibilité de la fin de la théocratie installée en 1978-79, pardon. Il n'en est rien. L'élimination physique des dirigeants ne suffit pas à remplacer un pouvoir, à l'évidence.
Oui.
Il y a donc bien un enracinement du chiisme politique, d'une certaine façon, dans ce pays et sa capacité à mener une guerre.
Oui.
Alors certes, peut-être qu'aujourd'hui, l'État iranien, c'est peut-être la difficulté d'ailleurs d'avoir des négociations diplomatiques actuellement au Pakistan. L'État iranien est actuellement, il n'est pas décapité, mais il est fortement affaibli, sans doute au profit, cette fois-ci...
Il y a eu des centaines de têtes de troupes qui ont été
éliminées.
Éliminées, oui.
Et par contre, quand vous avez le haut du pouvoir qui disparaît comme cela, assez brutalement, que se passe-t-il? Inévitablement, ce sont des pouvoirs locaux qui reprennent le flambeau.
Oui.
Et donc, très vraisemblablement, c'est un peu ce qui apparaît dans un certain nombre d'analyses, dans la presse américaine notamment, qu'aujourd'hui, la paix n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, par exemple, le détroit d'Hormuz n'est peut-être pas contrôlé totalement par Téhéran, mais plutôt par des, appelons ça, chef de guerre, chef de troupe, gardien de la Révolution,
C'est ce qui semble. En tous les cas, le président de la République islamique, qui est un homme modéré, j'arrive pas à prononcer son nom, lui, il serait assez partisan d'un compromis. Mais en fait, il ne peut pas, parce qu'il a à côté de lui le chef de l'organisation judiciaire, qui est une espèce de fanatique, et qui, lui, ne pense qu'à une chose, c'est à la répression.
Absolument.
Donc, ce pays, de ce point de vue-là, est...
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise surprise, mais en tout cas, c'est une surprise.
Oui,
on ne s'y attendait peut-être pas, du moins, il est vraisemblable que du côté américain et peut-être même du côté israélien...
Ils pensaient qu'ils résoudraient le problème plus vite.
Les choses iraient peut-être plus vite, de façon un peu plus radicale. Il n'en est rien. Autre exemple, les bombardements dont la presse américaine et la télévision américaine nous montrent des cartes pratiquement quotidiennes.
Oui.
Bon, mais ce sont des bombardements qui touchent essentiellement l'ouest de l'Iran. L'Iran, c'est 4-5 fois plus grand que la France. Une grande partie du territoire iranien n'est absolument pas touchée par la guerre. Donc on voit bien qu'en définitive, ce pays a des capacités de résistance, non pas insoupçonnées, il suffisait à la limite de regarder une carte et de comprendre un peu comment fonctionnent aussi les pouvoirs aussi autoritaires ou totalitaires soient-ils, pour s'apercevoir que ce ne serait peut-être pas aussi simple, ce n'était pas Saddam Hussein en quelque sorte ou Kadhafi.
Oui, oui.
Et là, il y a une grave erreur, je pense, d'appréciation.
Oui.
Mais encore une fois, c'est la guerre qui révèle tout cela. Ce ne sont pas des états-majors, ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des analystes,
oui,
aussi doués soient-ils. C'est finalement la guerre qui nous révèle à la fois toutes ces fragilités associées, celle d'Israël, celle du Liban,
celle de Syrie. Est-ce que vous ne pensez pas que... Ils s'imaginaient, que ce soit les Américains ou les Israéliens, qu'en faisant des pressions du genre de celles qu'ils opéraient, c'est-à-dire des bombardements et des menaces de bombardements encore plus violents, ils espéraient entraîner une population diverse, parce que
oui,
l'Iran est aussi très divers.
Absolument, vous avez les Azerbaïdjanais au nord.
Il y a des Arabes, il y a des Turkmènes,
absolument,
et il y a des Baloutches. Et il pensait que ça entraînerait une réaction de la population et qui est venue à un certain moment, il y a encore 2 mois, mais qui aujourd'hui semble éteinte.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils ont produit l'effet inverse.
Oui. Alors, on sait peu de choses en réalité sur ce qui se passe là-bas.
Oui, on sait très peu de choses.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'extérieur. Tous les pays que j'ai cités ont une particularité identique. Ils ont tous une diaspora importante.
Oui.
Diaspora en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, ne pas l'oublier. Et il n'est pas inintéressant de regarder de temps en temps les réactions de ces diasporas. Alors c'est vrai qu'on nous a montré dans un premier temps des images, notamment du côté iranien, d'une diaspora qui était plutôt hostile au régime, ce qui n'est pas faux si l'on va en Californie, à New York, à Paris, etc.
Bah oui.
Il y a eu l'espoir du retour du fils du Shah d'Iran.
En Afrique aussi. Bon. Oui.
Et là, par contre, au contraire, dans certains lieux, notamment l'Afrique, vous avez une communauté iranienne importante, une communauté chiite libanaise, il y a des phénomènes de solidarité.
Oui, c'est ça.
Il y a des phénomènes de solidarité et qui sont là, justement, qui alimentent l'idée d'une résistance. Donc, on s'aperçoit, en définitive, que la paix au Proche-Orient, quels que soient les mécanismes militaires ou l'importance militaire que l'on y mettra, restera toujours quelque chose, j'ai envie de dire, de presque inatteignable. Donc, ce désordre mondial, j'ai presque envie de le relativiser parce qu'en définitive, il a toujours été, il sera, à mon avis, encore là pour bien longtemps, tant qu'on n'aura pas, je pense, posé véritablement la question de la pérennité des États dans cette période,
oui,
du moins les États tels qu'ils sont, ils sont apparus à la fin de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'est là le nœud du problème, mais on ne peut pas aller plus loin. Que nous révèle aussi cette guerre? Là aussi, ce ne sera pas une grande nouveauté, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la Chine. C'est la Chine qui... évidemment, souffre beaucoup actuellement, puisque l'essentiel de son pétrole venait du golfe Persique. Mais tout en souffrant, elle s'adapte. Elle s'adapte et surtout, elle a les moyens de s'adapter. Et là, on s'aperçoit, et même d'ailleurs, tout d'un coup, à la Maison-Blanche, on s'en aperçoit seulement maintenant, c'est que la Chine est devenue une thalassocratie, comme l'Angleterre. C'est-à-dire que l'Empire britannique a été fondé à partir de comptoirs maritimes, de ports, des îles. Les Chinois font la même chose. Et il suffit de regarder une carte pour s'apercevoir que de Singapour jusqu'à Amsterdam, vous avez des...
En passant par le Pirée.
En passant par le Pirée, qui a été acheté par des entreprises chinoises.
Oui.
Pourquoi les États-Unis s'en inquiètent? Et là, depuis quelques jours, c'est Panama.
Mais bien sûr.
Panama, parce que là aussi, les Chinois ont des intérêts désormais dans ce canal achevé par les Américains.
Ils essayent, les Américains, d'expulser l'Amérique du Sud,
Chinois. Ça va être très compliqué.
Qui sont implantés de Cuba jusqu'à Panama.
Le Chinois serait presque plus populaire dans certaines régions que le Nord-Américain. Ça dépend. Ça dépend. Oui. C'est très variable. Mais
je ne suis pas sûr que le Chinois soit très, très aimé et très aimable.
Il n'est pas aimable, du moins dans ses rapports, commerciaux de négociation, je peux
pour
le confirmer.
Il n'y a que ça qui compte, oui, bien sûr.
Et donc, la Chine vient de se révéler, non pas réveiller, comme aurait dit Perfit, révéler désormais une puissance maritime de premier plan. Nous en avions les chiffres, deuxième puissance économique, tout ça était bel et bon. On voyait des bateaux chinois, bon, très bien. Mais là, la guerre montre que désormais, la Chine a des capacités à répondre à un affaissement de son approvisionnement pétrolier et gazier. Et si j'ajoute à cela la Russie, c'est-à-dire la capacité aussi désormais pour les Chinois d'amener encore davantage, ce qui n'est pas nouveau, de pétrole venant notamment de Sibérie, voire de l'Arctique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la fameuse route du Nord, vous apercevez que là, il y a un axe qui s'est mis en place, mais là, il faut revenir à l'autre guerre, à celle de 2022. celle qui a commencé en 2022, se tournant vers l'est de la Russie moscovite, avec tous les investissements des villes nouvelles, des infrastructures considérables, oléoducs, des autoroutes, dans des conditions climatiques et géologiques invraisemblables, qui désormais sont là pour approvisionner l'immense manufacture chinoise de ce trésor extraordinaire, ce coffre-fort qu'est la Sibérie.
Alors, nous accueillons notre ami Jacques Trémollet-Villers. Non, pas du tout. Vous avez votre place. Vous avez votre place. Je n'ai fait que prendre la parole.
J'étais dans les embouteillages. Bon, mais en fait, oui. malgré la restriction d'essence, il y a toujours des embouteillages, c'est bien.
Oui, c'est ça.
Bon, merci beaucoup et pardon ce retard.
Pas du tout. Nous sommes en pleine explication internationale.
Vous étiez dans quoi?
Nous parlons.
J'entendais parler de la Sibérie.
Oui.
Qui était un peu le coffre-fort nécessaire désormais de la Chine, qui souffre un peu du désordre mondial et qui a quand même des capacités de résistance et surtout des capacités à répondre à ce désordre de façon considérable, avec notamment tous ces ports, toutes ces infrastructures qui sont maintenant sur tous les océans et qui permettent à la Chine d'irriguer le monde, à la fois pour prendre, mais aussi pour vendre. Oui. Et puis cette connexion qui est le fait de la géographie entre l'espace sibérien et la manufacture chinoise, où elle peut prendre finalement ce qu'elle veut. L'idée qui, à un moment donné, a pu faire peur d'une population chinoise importante en Sibérie, ça c'est du domaine de la fiction, les Chinois n'ont pas du tout envie d'aller
se geler,
d'avoir froid. Par contre...
Mais c'est infini.
Les ressources pétrolières sont considérables, les ressources gazières sont... Parce que c'est la Sibérie, minières, c'est l'Extrême-Orient, les minières. Les fameuses terres rares, par exemple. Et l'Arctique. Et l'Arctique, où Total, d'ailleurs, avait des intérêts, j'espère qu'ils les ont toujours, dans l'Arctique russe. Donc, vous voyez, quand on parle aujourd'hui
l'idée maintenant de faire des voies navigables qui...
Par le détroit de Bering.
Permettront d'éviter... De passer par
mais on connaissait le détroit de Bering, mais moi je connaissais moins le détroit d'Ormuz. Oui. Mais je pense que les anglo-saxons, eux, s'intéressaient beaucoup à ça, ils doivent être très à l'aise.
Oui, alors si on continue un peu le tour d'horizon,
oui.
Peut-être un mot maintenant sur l'Europe, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que finalement l'Europe, c'est la région du monde, dans ce conflit-là, qui peut-être souffre le moins. Mais peut-être aussi, si elle souffre moins, c'est peut-être qu'elle est tellement faible qu'elle n'a plus les éléments nécessaires pour participer aux choses de la planète.
Oui.
Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe que j'essaie de montrer un peu maladroitement.
Oui.
Et c'est ça qui finalement est inquiétant. C'est que...
Elle subit.
On subit. Donc quand on subit, on n'a pas pris sur les événements. Et quand on n'a pas pris sur les événements, on subit.
On ne nous tape pas dessus.
On ne nous tape pas dessus, du coup. Exactement. Voilà, c'est tout le paradoxe de cette situation où, en définitive, l'Europe souffre, le prix de l'essence, ce n'est pas terminé, mais moins, nous en parlions tout à l'heure hors micro, que par exemple en 1979 avec le second choc pétrolier, qui lui a été en partie fatal pour une grande partie de l'économie européenne et en particulier française. Parce que là, il s'est agi quand même d'installer dans la durée une augmentation des coûts de production et des coûts des matières premières.
Est-ce que vous ne croyez pas que précisément, c'est ce qui irrite d'une certaine manière Macron et puis tout son entourage. Il a maintenant même ses généraux qui sont à ses ordres. C'est que précisément, ce qu'il voudrait, c'est qu'on en prenne d'une certaine manière plein la figure, comme les autres populations, de façon à nous constituer en puissance fédérale et... faire une Europe de la défense, on sent que c'est son but. Ses généraux nous annoncent une prochaine guerre, que les Russes, que les chars russes vont débouler et arriver jusqu'à Brest. Il va falloir faire des lignes de défense.
Je crois qu'il y a deux choses ici un peu distinctes, mais qui vont se rejoindre. La première, c'est un constat. Les Américains, du moins sous le mandat Trump, veulent se retirer. C'est l'isolationnisme que l'on connaît.
Tout en respectant la puissance américaine.
Exactement, on va dire ça comme ça. Et donc profiter de ce départ plus ou moins réel, parce que ça encore je ne sais pas, pour essayer d'accélérer un processus d'intégration européenne. Bon, là, j'ai envie de dire, le scénario est convaincant. Après tout, même les Britanniques, actuellement, les Britanniques sont en train d'étudier les moyens légaux de réintégrer les mécanismes européens sans adhérer à l'Union européenne. Oui. Bon, donc on voit bien que là, aujourd'hui, le retrait américain ou le discours américain, pour l'instant, favorise cette politique qui est une politique de, finalement, de concentration des pouvoirs au niveau européen.
Fédéral.
Fédéral. Et parallèlement, il y a l'autre, mais qui n'est pas contradictoire, l'autre attitude qui consiste à remettre de l'huile sur le feu.
Oui.
C'est, par exemple, les dernières décisions à l'égard de l'Ukraine.
On va intégrer l'Ukraine dans l'Europe.
Alors, il y a eu cette déclaration il y a trois jours qui a été peu commentée par les Français.
On crée un incident avec les Russes, évidemment.
Alors, non.
Oui, ils éviteront. Non. D'abord, ils ne peuvent pas.
Comment dire, là, du côté russe, on en est même presque ravis. Bon, j'explique rapidement ce qui a été décidé, ou plus exactement envisagé il y a 3-4 jours, entre Berlin et Paris, de faire adhérer symboliquement, et mais il faut mettre beaucoup de guillemets à ce mot de symbolique, l'Ukraine. Ce matin, M. Zelensky a dit que c'était tout à fait déshonorant que d'être admis symboliquement. Ça, c'est pour la façade, la critique. En réalité, cela, une adhésion symbolique possède quand même des cartes très concrètes.
Les 90 milliards, d'abord.
Alors déjà, il y a 90 milliards de prêts, etc. Mais surtout, cela permet... Plus exactement, cela ne permet pas... Et en creux, évidemment, on va trouver ce qui va être permis. Ce que ça ne permet pas à l'Ukraine de toucher les subventions nécessaires qui sont régulièrement attribuées au pays pour tel ou tel type de développement. Cela ne permet pas à l'Ukraine d'entrer dans la politique agricole commune. Une fois que l'on a dit ça, tout le reste est possible. Ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Bien sûr.
Ça veut dire que les frontières seront ouvertes. Autant vous dire... La politique agricole commune ou pas,
les blés,
les œufs, rappelez-vous l'affaire des œufs, ces œufs ukrainiens que l'on trouvait dans les supermarchés à Amiens, qui venaient, comme je crois l'avoir dit à cette antenne, qui venaient de gigantesques poulaillers ukrainiens, certes, mais dont les propriétaires étaient quelque part entre Chypre, l'Allemagne fédérale et l'Angleterre. Bon, vous voyez que tout cela, évidemment, est quand même assez inquiétant. Donc, on est sur des logiques, c'est-à-dire que le désordre permet de faire avancer des idées folles, mais qui, elles, peuvent amener de nouveaux désordres.
Mais bien sûr. C'est ce que veut Macron même. Et il le veut presque délibérément. Ça l'arrangerait pour pouvoir être au centre des délibérations que ça se termine de façon un peu tragique.
Oui.
Son discours à la fois pacifiste. Et complètement utopique, à des côtés guerriers, constamment. Il manie la guerre avec facilité. Alors pour le moment, c'est rhétorique. Mais c'est en même temps, c'est rhétorique pour le moment. Mais ce qu'il voudrait, c'est que ça ne soit plus rhétorique pour que c'est une réalité sur laquelle il puisse s'appuyer.
C'est ce que fait M. Trump.
C'est ce que fait Trump, oui, bien sûr.
C'est-à-dire une rhétorique, mais qui, à un moment donné, trouve une application concrète, à savoir que l'on envoie quand même des militaires et des bombes dans le golfe Persique. Oui. Je termine sur la Russie, peut-être.
Bien sûr, c'est très intéressant.
Très rapidement. Oui. Alors, vous me disiez, mais les Russes ne vont pas être contents. Alors là, je vous donne une constante de la rhétorique du Kremlin.
Oui.
C'est du moment que le Donbass et la Crimée sont russes, prenez l'Ukraine.
Le reste, on s'en fiche, oui.
Prenez l'Ukraine.
Oui.
Avec, évidemment, en vous souhaitant bon courage. C'est ce qui n'est évidemment pas dit, mais qui est très souligné.
Bien sûr, avec toutes les disputes qui vont venir.
Les disputes
vous imaginez, entre les minorités.
Je n'ose même pas imaginer la question de l'armement qui a été déversé sur l'Ukraine. Si on ouvre les frontières, ce qui s'est passé après les guerres de Yougoslave, ce sera puissance 10, très vraisemblablement, en matière de vente sur le marché, les marchés aux voleurs de l'Europe centrale et orientale d'autrefois.
Il y aura même des canons César qui risquent d'être vendus.
Peut-être.
D'occasion.
Donc, non, mais voilà, ça, ce sont des éléments inquiétants. Oui. Bon, la Russie, quels sont... Alors, évidemment, là, il y a eu quand même des désappointements. Désappointements de se retrouver quand même avec des alliés qui étaient dans une guerre dont on ne voit pas très bien l'issue. Et là, on n'aime pas beaucoup à Moscou les incertitudes, même si on en provoque de temps en temps. La question iranienne, évidemment, inquiète. Mais on s'aperçoit encore que, par-delà les inquiétudes, par-delà les désordres apparents, il y a des résistances. L'affaire notamment de Nakhitchevan, vous savez, ce bombardement de l'aéroport de Nakhitchevan, qui se trouve donc à la frontière entre l'Azerbaïdjan, enfin du côté azerbaïdjanais, un ancien territoire arménien, mais du frontière azerbaïdjanais à la frontière iranienne, Moscou est intervenu et vous êtes aperçu que très vite, tout le monde a dit oui, c'est une erreur, il ne se passera rien. Donc, il y a encore du crédit de la diplomatie russe dans cette région. Elle en a perdu, ou plus exactement, je pense qu'il y a eu des espoirs déçus, c'est les BRICS.
Oui.
Les BRICS ne sont, je rappelle, l'Iran en fait partie.
Oui.
Et force est de constater qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une traduction politique, heureusement, d'une certaine façon. Plus, c'était le grand coup de Moscou d'avoir mis dans la même organisation l'Iran et l'Arabie saoudite.
Oui, bien sûr.
Et là, pardon, mais le château de cartes s'est un petit peu effondré. Encore que, il faudrait quand même que je dise un mot quand même des pays arabes, dans ce grand désordre mondial, là aussi, la guerre... qui a été une très mauvaise surprise, quand je dis c'est un euphémisme, va sans doute réorienter un certain nombre de politiques. Le parapluie américain n'est pas si efficace que cela. Peut-être. Enfin, oui, là, je reviens sur la question militaire, je
prince,
ne peux pas.
Le prince Salman, il est parti en Chine. Hein.
Voilà, donc et on peut supposer que
ces pays
sont riches,
hein,
ne l'oublions pas. Enfin, les capitaux, vous parliez de la dette de la France, qui sont les propriétaires de la dette de la France.
Oui.
Je crains qu'il y ait quand même beaucoup de ces personnes qui aujourd'hui ont quelques difficultés à sortir le soir.
Il y a des Arabes, il y a des Allemands dans la dette et des fonds de pension américains.
Donc, on voit bien que
la France est tellement riche qu'elle paye les pensions des vieillards américains. Oui.
Et oui.
Donc, ça, c'est grâce à nos crétins de dirigeants.
Donc voilà, je pense que là aussi, on assistera à un remembrement, du moins à une évolution des rapports qui vont faire que si cette guerre s'arrête, mais vous le savez, ce n'est pas mon hypothèse, je pense que ça sera, comme toujours, ça va durer, ce sera une guerre de basse intensité, comme on a connu depuis 1948, de toute façon.
Avec de temps en temps des bombardements ?
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, il peut y avoir des incidents.
Oui.
Dans le détroit d'Ormuz en particulier.
Bien sûr.
Bon, là, il y a des vedettes, des gardiens de la Révolution qui ont arraisonné deux ou trois bâtiments marchands.
Oui, mais ça ne compte pas.
Oui, mais de l'autre côté, il y a une flotte américaine qui arrive sur place.
Ils ne pourront pas rester là indéfiniment.
Et qui prétendent débloquer.
Imaginez des tensions dans les Caraïbes. Une tension du côté de Panama. Une tension en Extrême-Orient. Donc la flotte américaine ne peut pas être malgré tout, malgré sa puissance, être partout. Et il est possible aussi que les intérêts des pays riverains ne soient pas forcément au diapason d'une présence américaine permanente.
Là, apparemment, c'est ce que commencent à comprendre des pays, même comme le Qatar.
Et exactement.
Parce qu'ils perdent, ils sont en train de perdre leur substance financière, qui est essentiellement le tourisme, les banques, les... Et tout ça est en train de se retirer.
Donc voilà, je pense que je ne peux pas commenter la guerre elle-même, comme je vous l'ai dit, mais on peut placer ce moment dans ce nouvel épisode d'histoire mondiale, qui est ce grand désordre international qui a commencé vraisemblablement vers 2007-2010, par là, peut-être un peu avant, mais peu importe la chronologie, qui, dans le cas du Moyen-Orient, est sans aucun doute plus ancien. Ça, il faut sans doute remonter peut-être à 1918-19, peut-être en 1948, peu importe. Mais ce chevauchement des plaques fait que, quelle que soit l'issue, nous ne retrouverons certainement pas des cartes bien dessinées, avec des frontières bien établies et des États vivant en paix l'un à côté de l'autre.
On doit passer le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci.
Alors, oui, en votre absence, nous évoquions les années antérieures, c'est-à-dire toute cette période où on a cru, après l'effondrement du mur de Berlin, on a cru qu'allait se répandre à travers le monde une ère pacifique et une ère de prospérité facile. Et que les gouvernants de nos pays européens, et en particulier du type Macron, sont nés dans cette ambiance, ont été formés dans cette ambiance. Or, il se trouve aujourd'hui que la situation est en train de se modifier complètement.
On avait oublié les gardiens de la Révolution.
Ouais, exactement. Et donc, si je vous me permettez,
oui,
le sens de l'intervention de Pascal, c'est de montrer qu'il y a une adaptation de la pensée concrète, en particulier des Européens, par rapport à une situation nouvelle qu'ils n'avaient absolument pas envisagée et qui est une situation de guerre, dans le fond.
Oui, qui, d'une certaine façon, rejoint les traditions, enfin, des situations plus anciennes.
Oui, mais guerre économique, guerre politique, guerre financière et guerre idéologique.
Guerre idéologique. Mais c'est vrai qu'on a cru, et vous parliez d'Emmanuel Macron, ce sont des personnes qui ont eu 20 ans à un moment où le mot de l'époque, c'était, vous vous souvenez, donc globalisation, que je me disais tout à l'heure, on crut que l'on pouvait établir la paix perpétuelle par le droit universel.
Oui.
C'était, vous vous souvenez, droit international, l'état de droit, etc. Que l'on pouvait. Les États-nations étaient périmés. C'était quand même un des grands leitmotivs de l'époque. Les États-nations, c'était périmé. Et ça allait être remplacé désormais par une sorte d'espace lisse.
Des marchés,
et on l'a vu. Mais un peu plus que les marchés, parce que déjà Maastricht n'était plus tout à fait le traité de Rome. Et donc, c'était des marchés qu'il fallait aussi concrétiser par une administration, par un droit, par une élite aussi, qui devait être formée pour pouvoir peut-être aussi se passer du phénomène démocratique.
Un point caractéristique, c'est, par exemple, c'est le fait que Macron a supprimé le corps des ambassadeurs, comme le corps des préfets. Mais en revanche, il a créé des ambassadeurs par thème.
Oui.
C'est-à-dire que la France a une vingtaine d'ambassadeurs payés comme ambassadeurs, avec les avantages des ambassadeurs, pour, quand vous faites la liste, ça vous paraît complètement aberrant pour LGBT, pour le climat, et ils se promènent à travers le monde et ils vont répandre la bonne parole macronienne.
Des leçons de morale.
Mais bon, ça ne leur coûte rien.
Et ça vient aussi, là aussi, de...
Mais c'est remplacer la notion de nation et d'État avec les intérêts, avec des États qui ont des intérêts et qui doivent défendre, et l'ambassadeur est chargé de la défense de ses intérêts, c'est remplacer ça par une sorte de doctrine générale, moralo-juridique, et c'est tout à fait caractéristique, je pense, de l'esprit macronien, ça. C'est comme ça qu'il raisonne.
Alors, peut-être cela a son origine dans aussi une nouvelle vision des organisations économiques humaines.
Oui.
Je m'explique. À peu près au même moment, dans les années, fin des années 80, début des années 90, peut-être vous vous souviendrez de ces mots intéressants, on parlait de management, de bilan de compétences.
Oui.
C'est-à-dire que le modèle de l'entreprise, ou plus exactement, le modèle qu'on en était en train d'écrire de l'entreprise, commençait à apparaître comme finalement le meilleur système possible de faire vivre et travailler des gens ensemble.
Oui.
La conséquence de cela, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État-nation peut être remplacé par une gigantesque entreprise.
Mais
l'entreprise, pas simplement au sens économique, avec sa morale.
Oui.
Bonjour chez vous, il faut être poli, il faut être aimable. Cela, j'ai oublié le mot. Il y avait les compétences techniques. Et puis ensuite, il fallait évaluer aussi ses propres compétences humaines au sein de l'entreprise. Voilà, le care, absolument. Et ça, c'est arrivé, moi je me souviens très bien, dans les années 90, avec par exemple l'entretien annuel d'évaluation dans les entreprises désormais. Et cela a été ensuite adapté aux fonctionnaires. Mais en 90, on voit, il y a le manager, le N+1, tout ce vocabulaire. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que cette idée que l'entreprise devait obéir à des pratiques de relations humaines de plus en plus codifiées permettait d'appréhender ce que l'on appelait à l'époque une société complexe.
Oui.
C'était le grand mot de la sociologie de l'époque. La société est complexe. J'en viens à vos ambassadeurs.
Oui.
Ils sont là pour ça. Pour aborder par segment une société complexe. On retrouve l'idéologie des années 90,
oui,
ce point de vue-là.
Oui, oui,
cette fameuse
oui.
idéologie mondiale qui fait qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'appréhender des réalités qui ne sont pas nouvelles en définitive.
Oui, moyennant quoi, l'ambassadeur LGBT qui a fait le tour de l'Afrique a été jeté de l'Afrique.
Bien entendu. Parce qu'il est, c'est un homme qui est là pour gérer un dossier.
Et
les N-1 qu'il a eu en face de lui n'étaient pas en mesure, tout simplement, d'obtempérer à ses préconisations. Parce qu'en fait, la préconisation, en fait, les ambassadeurs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des conseils d'entreprise.
Oui.
Vous vous souvenez de ces grandes sociétés, comment s'appelait-elle déjà? Alors, il y avait McKinsey, mais avant, il y avait celle qui a fait faillite, dont j'oublie le nom à l'instant, mais ce n'est pas grave, qui entrait dans toutes les entreprises françaises. On voyait arriver ces braves gens avec de très beaux costumes.
Qui se
faisaient payer très cher, qui venaient vous expliquer comment il fallait travailler sans pas grand-chose savoir du
et
travail d'autrui.
Macron était très là-dedans.
Et là, c'est cette génération, elle a été formée pendant cette
période. Et les gens de la gouvernance.
Et alors, le mot gouvernance est arrivé. Absolument. Le mot gouvernance a remplacé le mot gouvernement. On gouverne, la gouvernance d'une entreprise est devenue la gouvernance d'un État. Sauf que l'État devait devenir aussi transparent qu'une entreprise du CAC 40 ou de la Défense. Et on voit aujourd'hui le résultat. Donc, que ce soit les mots, les pratiques, tout cela est né dans cette période, effectivement. On les a vus naître, ces pratiques. Mais la conséquence, c'est qu'on a perdu les définitions, les codes, les mots même, qui nous permettent d'appréhender cette troisième phase, qui est ce grand désordre.
Oui.
Et qui, encore une fois, ce grand désordre, il faut simplement l'autopsier pour ce qu'il est, le regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire révélateur à la fois de force et de faiblesse. Et à partir de là, on peut peut-être commencer à, d'abord, à éviter de dire beaucoup de bêtises, faire un état des lieux, ça nous changerait, et avant de pouvoir prendre des décisions.
Comment voulez-vous faire un état des lieux et comment voulez-vous qu'on puisse réfléchir alors qu'on est déjà entré en campagne électorale pour les présidentielles?
Pour le cas français.
Et c'est de savoir celui...
Et pour le cas américain aussi, d'ailleurs.
Bien sûr.
Il y a des élections bientôt.
Bien sûr, avec les législatives qui suivent. Et, donc,
on sent dans la politique de Trump qu'il y a le poids.
Oui,
il y a vraiment cette pression de l'élection prochaine.
Il a un regard sur son miroir et un regard sur les sondages. Je pense que ça doit être...
Mais comment voulez-vous avoir une réflexion de fond dans un cadre pareil? Qu'est-ce que peut sortir un Attal? Qu'est-ce que peut sortir un...
Rien, c'est la même génération.
Un Philippe, comment, même un Retailleau. Enfin, c'est... Il y en a un qui t'apprend un peu plus du poing sur la table pour montrer qu'il est plus directif que les autres. Mais ça, tout ça, c'est moi, ce qui m'effraie, c'est de voir pas simplement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité des doctrines des hommes d'aborder la réalité d'aujourd'hui, en raison de leurs présupposés idéologiques.
Réalité dans
ce
qu'il
y a
long.
De plus grave, c'est encore, c'est que le jeu des institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, mais pas simplement en France, mais pratiquement dans le monde entier, fait que les gens qui dirigent ne sont pas aptes, ne peuvent pas être aptes, parce que leurs préoccupations sont ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que pense un Attal qui écrit un petit bouquin pour se raconter lui-même? Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin? Enfin, c'est sidérant quand on y réfléchit. Et tous vont se faire la même chose. Philippe va faire la même chose. Tout le monde va faire on va se raconter, y compris ces histoires de cul et de... Mais c'est invraisemblable, enfin. Et tout ça pour essayer de gagner 2 voix ou 3 voix. Et ça prétend diriger la France. Mais je trouve qu'on est, on est dans l'ineptie la plus totale.
Comme un manager, pour reprendre le mot très, très courant dans l'entreprise, ça doit être transparent. Doit être proche des personnes qu'il dirige et donc il doit mettre sa vie pratiquement sur la table.
Oui.
Et puis, autre élément, il peut travailler, il est là nommé pour 1 an ou 2 ans, il est là pour redresser les comptes face à son conseil d'administration pendant 2 ans, puis après il s'en va, il va chercher ailleurs.
Bien sûr.
Donc, on réduit un peu, le réduit est un euphémisme, la personnalité politique à ses responsables d'entreprise ou ses responsables de service qui restent là 2 ans, 3 ans et ensuite vont chercher fortune ou meilleur tapis vert ailleurs. Voilà,
bien payé.
Bien payé, tant que faire se peut.
Toujours bien payé.
Alors, non, j'ai un message nous avons un message d'un auditeur, et je pense qu'il va dans le sens de ce que vous dites. Je vous lis, puis je vous demande de réagir. Cet auditeur nous dit « Je travaille pour un grand ministère qui s'est donné pour objectif la dématérialisation, la numérisation et la mise à disposition de toutes les applications qui permettront à la France d'effacer tout contact humain avec l'aide de l'IA, bien sûr. Ne va-t-on pas tout simplement vers l'extinction de la nation France,
oui,
au profit des multinationales, des institutions internationales et des banques centrales?
Je vais remercier chaleureusement cet auditeur pour une raison simple. C'était un peu le dernier,
oui,
point de mon propos.
Oui.
C'est-à-dire que dans ce commentaire trop rapide, très rapide, des questions internationales, il y a un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à présent et qui fait la une, inquiète, des journaux américains et britanniques. C'est justement l'intelligence artificielle. Depuis quelques jours, il y a appelons ça un logiciel, puisque c'est son nom, qui s'appelle Claude Mythos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, Mythos est une entreprise, une,
oui,
entreprise de fabrique de logiciels. Elle a fabriqué un logiciel qui s'appelle Claude. Je ne suis pas spécialiste, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans la presse. Et ce Claude a une capacité d'analyse très exceptionnelle. Tellement exceptionnelle qu'il est capable, face à un autre système d'analyse, d'en définir très très rapidement pratiquement toutes les faiblesses et toutes les porosités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous mettez ce logiciel face logiciel, quel qu'il soit, d'un autre,
d'un ministère, en quelques temps. En ce moment, ce qui est en train de se faire. Les ministères sont happés par...
La société Mythos avait, jusqu'à présent, en lien avec les services secrets américains, etc., interdit toute publicité, on va dire ça comme ça, de ce logiciel. Savoir que... non seulement il ne pouvait pas être rendu public, mais il ne pouvait pas être utilisé par les publics, tellement sa puissance semblait être terrifiante. C'est le mot utilisé par la presse actuellement. Sauf que voilà, il y a quatre jours, le système a été piraté. Et donc là, tout le monde est très très inquiet.
Ah oui, par qui, pourquoi?
Ça veut dire qu'actuellement se promène un système qui peut vous détruire n'importe quel système dans le monde, apparemment. Je ne connais pas tous les détails techniques, mais votre auditeur a raison. Il y a aujourd'hui une vraie inquiétude face à ce développement de l'intelligence artificielle, dont on se moque un peu par les fameux pirates de l'informatique, en imaginant qu'il s'agit de petits jeunes avec des casquettes en arrière et une bouteille d'une boisson gazeuse à côté. Non, là, c'est quelque chose certainement de plus important. Imaginez une organisation criminelle ou autre.
Bien sûr.
Donc, qui peut s'emparer apparemment désormais de systèmes informatiques particulièrement redoutables. L'autre élément, et là, je rejoins complètement l'auditeur, c'est que l'informatisation, qui, je rappelle, est née au moment de la globalisation, la mondialisation.
Oui.
Là, la chronologie est impitoyable.
Oui.
Fin des années 90.
Dans une atmosphère pacifiste et
internationaliste.
Tout à fait.
Le fameux bug de l'an 2000, qui n'a pas eu lieu.
Oui.
Tout le monde était réjoui. Là, aujourd'hui, la dématérialisation, c'est la porte ouverte à la fois à toutes les dérives possibles. On peut, demain, avec votre nom, votre prénom, votre... date de naissance et votre numéro de sécurité sociale, qui n'est pas compliqué à obtenir, on peut faire ce que l'on veut. Démultiplier à l'envi pour des raisons plus ou moins...
Et on sait que ça existe déjà,
bien entendu. Donc c'est très inquiétant, donc porte ouverte à tout, mais aussi porte fermée. Porte fermée, je crois que tout le monde en fait l'expérience, moi j'en fais malheureusement en ce moment, pour des raisons particulières, une expérience quasi quotidienne, à savoir que je rentre dans un système... On me demande un identifiant, on me demande ceci, je ne l'ai pas. Je demande un identifiant, on me dit, mais oui, mais quel est votre le mot initial?
Oui,
mais je n'ai pas le mot initial, donc je ne peux pas avoir les
deux.
On connaît ça.
C'est-à-dire
un enfer.
Oui, oui.
Et vous n'avez personne au bout du fil, sinon une petite musique qui généralement est attribuée à Vivaldi, lointain, qui pendant une bonne heure vous dit, on va vous mettre en relation. Et puis à un moment donné, le téléphone raccroche parce que même Vivaldi a
même
perdu patience.
Pour avoir accès à vos comptes, même pour pouvoir
absolument
gérer vos comptes, vous êtes obligé de passer par
des
identifiants, des mots de passe.
Ça, c'est terrible. Je pense que là, peut-être pour clore ce chapitre, il y aura vraisemblablement... Là, pour le coup, on peut imaginer... Une vraie insurrection, c'est-à-dire une vraie rupture par rapport à l'informatique. Je pense que sur le plan politique, celui ou celle qui rétablira les contacts humains, ne serait-ce que dans l'administration, gagnera la sympathie du plus grand nombre. Mais un contact humain qui ne soit pas simplement, rappelez-vous, Fernand Reynaud, le 22 à Asnières,
oui,
Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, je prends en charge votre demande, j'ai devant moi un ordinateur, je vais arranger cela, ou je vais simplement prendre votre nom sur un papier, ce papier je vais le transmettre, je vais le vérifier sur un grand livre comme autrefois.
Et non, mais c'est terrible, parce que même aujourd'hui, même les hôpitaux, c'est comme ça.
On connaît tout cela, partout. Oui, c'est partout, terrifiant. Partout. Et je pense que la bonne solution, c'est de revenir finalement à ce que l'on savait, à savoir parfois la plume et le crayon, qui seraient peut-être beaucoup plus efficaces. La vraie révolution, elle est là. Je vous donne un dernier exemple. Ayant eu quelques missions autrefois aux affaires étrangères, nous avions ce qu'on appelait les réunions de sécurité. Et avant de partir, on vous réunit, puis on vous explique que, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a toujours le gag de l'inspection dans une ambassade où on passe devant des beaux écrans avec le post-it et le code pour ne pas oublier. Enfin, bref. Et un jeune collègue disait, mais est-ce que je peux utiliser mon téléphone portable? Est-ce que je risque de ne pas être écouté? Et la personne responsable de la formation disait, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez écouté. De toute façon, si vous voulez transmettre.
Et le même garçon, portable éteint.
Et même le portable éteint. Absolument, il faut retirer la batterie, pour ceux qui ne le savent pas. C'est seulement si vous avez retiré la batterie que... Bon. Et le pauvre garçon, je le voyais démuni, disant, mais si je veux correspondre avec mon ambassade ou mon correspondant, je fais comment? Et là, je me suis permis de lui dire, bah, vous savez, ce qui a été approuvé d'ailleurs par le manager, comme on dit, vous prenez un papier, une enveloppe et un timbre. J'ai eu confirmation que c'était quand même la méthode la plus essentielle. Donc oui, je pense que là, sur le plan international, vous voyez, on passe de la guerre à autre chose.
Oui.
On passe à autre chose parce que cette affaire Mythos, je pense que nos auditeurs
Il y a longtemps de ça, je me souviens, j'étais chargé de cours à la fac et j'avais invité le président, M. François Serra, qui était président du CNPF à l'époque.
Oui.
Et je lui avais dit, Monsieur le Président, comment je fais pour vous envoyer un message discret? Il me dit, la poste, cher ami, la poste.
Ben oui.
La poste qui souffre aujourd'hui, mais c'est vrai. Mais voilà, je pense que là, sur le plan international, il y a d'autres préoccupations, peut-être, pardonnez-moi, mais peut-être même plus graves que ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui, à savoir comment va-t-on prendre à bras le corps cette question de la gouvernance électronique.
Mais est-ce que cette guerre ne peut pas nous faire du bien? Parce que la guerre, c'est horrible, mais parfois ça réveille.
Oui.
C'est ce que je pense, c'est l'idée que la guerre, ça révèle aussi des capacités d'adaptation, de réponse, qui, à un moment donné, une fois la paix même relative revenue, sont des gains pour la société humaine. Ou du moins, qui peuvent être aussi des gains pour une puissance qui sait s'adapter à un système à une période de conflit, qu'on fait à la Chine actuellement. Donc oui, il peut sortir sans doute un bien. Après tout, pardon, c'est tragique de dire ça surtout aujourd'hui, mais la médecine n'a jamais tant fait de progrès, la chirurgie d'abord, puis ensuite la médecine pendant les guerres. C'est malheureusement, vous allez au musée des armées, au Val-de-Grâce, et vous le constatez.
Il faut rendre grâce à Napoléon de ce point de vue-là. Il a fait beaucoup de morts, mais il a permis à la chirurgie de faire des progrès considérables. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui...
Ah oui, vous avez un impératif.
Si la dimension... Ah bon, d'accord. Vous êtes obligé de partir.
Hélas.
Merci, pardonnez-moi d'avoir, en ce qui me concerne, compté l'entretien.
Merci beaucoup, Pascal. Et alors, nous allons poursuivre, Jacques.
Alors, je vais vous interroger, pas vous interviewer, parce qu'ici, ça ne se dit pas.
Oui.
Mais vous interroger...
Entendu. Merci encore, Pascal.
Mais nous avons déjà largement avancé.
Ah oui, très bien. Alors, j'ai un auditeur qui nous a envoyé cette réflexion. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si la dimension du politique n'occupe pas toute sa place, au même titre que la dimension du physiologique, du psychologique dans la vie de chaque individu, les changements politiques ne changeront rien quant au pouvoir de l'individu sur lui-même et la société? Mais bien sûr, c'est aujourd'hui tel que c'est... Telles que sont nos institutions, il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse transformer le cœur humain, et ce n'est certainement pas l'influence des autorités politiques ou des autorités économiques.
Non, mais on peut penser quand même que...
Qui pourront améliorer la société et améliorer les âmes. Oui.
Ça, c'est certain, mais merci.
Alors, encore une...
Alors, toujours ce même auditeur de Niette. Deuxième épisode. Dans ce grand ministère, nous sommes régulièrement attaqués par des hackers qui savent tout sur nous et qui pénètrent au cœur du système, totalement insécurisé. Oui. De ce fait, et le service dans lequel je travaille peut être qualifié de sensible. Deux points d'exclamation. Et sensible, entre guillemets. Donc, mais enfin, nous le voyons. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez effrayant aujourd'hui de voir cette multiplication des piratages.
Oui.
Notamment l'éducation nationale, enfin...
Oui, partout. Partout. Alors... Et pour des utilisations qui sont à la limite criminelles. Quand des identités sont usurpées, c'est généralement à partir de ces vols. Et je suis persuadé que, par exemple, le nombre de cartes vitales qui sont en surnombre sont constituées essentiellement à partir de listes de ce genre. Oui, oui.
Ah oui, ça peut permettre des trafics immenses pour tout ce qui est régularisation de papier et notamment l'accès aux soins et l'utilisation de la carte vitale.
Alors, vous aviez une question à poser.
Oui, j'ai une question à poser. C'est une question qui est sur le politique, justement, parce que je pensais que dans ce vaste magma-là, qui serait bien décrit par Pascal Cauchy, la réflexion politique met une espèce d'objectivité qui peut être utile. Et contrairement à ce que disait cet auditeur, je ne sais pas si la politique peut changer les âmes, je ne crois pas. Mais ce n'est pas son rôle. Mais elle peut quand même induire une réflexion en mettant un peu les pieds sur terre et disant, en fait, de toutes les façons, quels que soient les rêves et ou les cauchemars, il y a un moment où il y a des décisions qui doivent être prises. Et ces décisions se concrétisent par des actes. Alors, dans les guerres, ce sont des actes meurtriers. Dans la politique... dites pacifiques, ce sont des actes en général fiscaux, parce que dès qu'on parle de l'État, c'est le fisc. Bon, donc, qui touche à l'argent, qui touche à la propriété. Et donc, il y a là une réalité qui peut permettre de... comment dire... de faire sortir du trouble, du rêve, du cauchemar, de l'imagination. Non, mais il y a des réalités matérielles, il y a des réalités concrètes et que nous sommes obligés de voir. Donc, en ce qui concerne la France, même si on est dans un brouillard considérable pour...
Oui, les institutions aujourd'hui.
Les
oui.
institutions et les prochaines présidentielles, mais l'avenir. Mais il y a des impératifs. Alors, est-ce que vous avez là-dessus un sentiment, une réflexion?
Oui, je suis, comme vous le savez, suffisamment maurassien pour... tout à fait approuvé le propos que vous venez de tenir, parce que ça, c'est une pensée très profonde de Maurras. Et c'est pour ça qu'il regrettait que, même dans le fond, que l'Église soit intervenue dans ce domaine en prétendant être indifférente aux institutions, être indifférente à, finalement aux formes diverses que peuvent prendre la direction des hommes, parce que, justement, la réalité politique s'impose, et la vérité politique s'impose via un moment où un père de famille doit défendre sa famille, ou un chef d'entreprise doit défendre son entreprise, ou un chef d'État doit défendre son État. Et là, il y a des réalités au-delà des discours de Macron, au-delà des discours de Le Cornu, au-delà des manigances du Parti socialiste ou des LR. Il y a une nécessité politique. Et Maurras était très attaché à cette notion de nécessité politique, ce qui ne veut pas dire du tout matérialisme, comme les commentateurs stupides l'ont dit. C'était une nécessité, une contrainte, c'est-à-dire que, à la limite, Dieu avait voulu la société dans cet ordre-là pour contraindre les hommes à vivre selon un certain nombre de normes et de normes qui les tournent naturellement vers le bien. C'était ça son idée.
Dans la préface de la balance intérieure, il cite une phrase du Christ à Sainte Catherine de Sienne, disant « J'ai voulu qu'ils aient besoin les uns des autres. »
Bien sûr, j'ai voulu qu'ils aient besoin les uns des autres, ce qui facilite le commandement de s'aimer les uns les autres, qui est si difficile à exercer, comme chacun sait. Et ça le facilite. Et par conséquent, on s'aime dans le cadre de la famille, des institutions, de la nation.
Et des besoins qu'on a les uns des autres.
Bien sûr. Et ça, c'est une... malheureusement...
Alors aujourd'hui en France, quels sont les besoins aujourd'hui?
Oui. Quels sont les besoins aujourd'hui? Comme ils disent maintenant, c'est à ce genre de ce mot, il faut faire nation. Voilà. Il faut refaire la France. Enfin, elle existe. Il ne faut pas la refaire de façon imaginative, de façon idéologique. Il ne s'agit pas de recréer une France créole ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est les idées à la Mélenchon ou même à la Macron. Sur ce point-là, ils se rejoignent totalement. Pour eux, la France, c'est un mot, ce n'est pas du tout une réalité. La vraie France, et heureusement qu'elle parle encore, mais elle n'a aucun pouvoir. La France réelle, c'est celle de ces villes moyennes où se trouve d'ailleurs un électorat, généralement un électorat conservateur et national. C'est pas là où se trouvent les électorats bobos et gauchos. Et cette France-là, elle a énormément de mal à vivre parce que nos institutions ne sont absolument plus adaptées à elle. Avant, c'était elle qui irriguait le reste. Même sous la Troisième République, cette France-là irriguait d'une certaine manière une République, par ailleurs, tout à fait contestable, partisane, incapable de régler les grands problèmes régaliens. Mais elle l'irriguait parce que, pour être député, il fallait quand même satisfaire et répondre à ces circonscriptions qui étaient essentiellement des circonscriptions de pays. C'était nos vieux pays qui parlaient et qui s'exprimaient. Alors mal, parce que il y avait une fausseté au départ, une démagogie, mais quand même, aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce que c'est que le Parti Renaissance, un parti de jeunes idéologues qui ne pensent qu'à une chose, c'est à leur ambition personnelle, c'est tout. Et pratiquement tous les partis, c'est ça. Même, alors très heureusement, il y a dans le Rassemblement National, notamment des élus locaux qui, eux, sont tout à fait proches de leurs concitoyens et qui savent très bien ce dont les Français ont besoin.
Vous parliez de ces villes moyennes, on le voit avec les exemples de La Flèche et d'autres villes, Carpentras, ces villes moyennes, où, en fait, la gestion, c'est pas tellement l'image du Rassemblement National, c'est la gestion efficace de ceux qui représentent le Rassemblement National qui s'est révélée vraiment le facteur qui les a fait élire. Donc en fait, il y a une jonction entre une pensée nationale et une réalité locale.
Exactement. Et ça aussi, c'est une forte pensée de Charles Maurras qui est totalement méconnu. On en fait une sorte d'idéologue, alors que tout son combat et toute sa vie, sa première brochure, c'est une brochure sur la décentralisation. Et c'est pratiquement lui qui a rendu ce mot, qui était un mot barbare, a rendu ce mot un mot commun. Sa brochure sur la décentralisation, en montrant quelque chose, une démonstration qui est définitive. À savoir que le régime républicain tel qu'il fonctionne en France, qui n'est pas la République suisse, qui n'est pas même pas les États-Unis, c'est différent. La République en France, telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire fondamentalement idéologique, elle est centralisatrice par nature. Et que d'ailleurs, il le prédisait, c'est écrit dans cette petite brochure de 150 pages, Et les efforts de décentralisation, parce que déjà à l'époque, on parlait de décentralisation. Il y avait d'abord des théoriciens comme Le Play, heureusement, mais, mais il y avait aussi de près des politiciens qui trouvaient que, de fait, le jacobinisme était en train de prendre toute la place de la République. Il montrait que ce serait vain. C'est-à-dire que même, et c'est ce qui se passe avec les fameuses lois de décentralisation à la Raffarin, c'est qu'en réalité, ça incruste le phénomène centralisateur au sein même des collectivités territoriales.
Mais c'est vrai, et d'ailleurs...
Les maires se plaignent, parce que c'est plus eux qui commandent. C'est au-dessus, la communauté de communes, c'est-à-dire la bande des oseaux qui ont réussi à prendre le pouvoir, parce que ce n'est plus que ça, prendre le pouvoir pour imposer des directives. Oui.
Et pour percevoir les subventions du pouvoir aux places où ils
sont. Bien sûr, c'est exactement ça. Et ça, c'est une très grande force de la démonstration, ben, puisque vous me faites parler de Maurras, moi je me lâche, comme disait l'autre. Cette très grande force de démonstration, à savoir que la liberté, les libertés réelles, concrètes, ne peuvent s'exercer qu'à partir du moment où il y a une autorité juste qui a été, qui assume sa fonction au sommet de l'État. Si on n'a pas ça, les libertés seront bouffées. Et c'est exactement ce que nous vivons.
Mais aujourd'hui, alors, est-ce que nous avons...
L'enquête sur la monarchie est plus une démonstration des libertés locales qu'une démonstration de la valeur de la monarchie en elle-même. Et ça, c'est complètement oublié. Cet aspect était extrêmement important chez Maurras. C'est lui qui a créé cette dualité qui a été reprise par la suite. D'un côté, la liberté, de l'autre côté, l'autorité. Et ce ne sont pas des oppositions, c'est une complémentarité à la condition que l'autorité soit légitime et que les libertés correspondent non pas à une liberté théorique, mais à des libertés concrètes.
Et à de vrais pouvoirs, en fait.
Oui, et à de vrais pouvoirs.
Parce que qui dit liberté dit autorité. Oui, non, parce que je me souviens d'avoir travaillé il y a quelques années sur les projets de décentralisation, et j'avais calculé qu'il y a déjà quelques années, il y a déjà au moins un demi-siècle, il y avait eu 52 projets de décentralisation.
Oui.
Et le dernier...
Avant même sous la quatrième,
oui,
sous la troisième.
Oui, sous la troisième, oui. Et donc tout le monde avait l'idée qu'il fallait décentraliser, mais en définitive, ça aboutissait à une concentration. Alors à la fin, ils ont plus osé parler de décentralisation, ils parlaient de déconcentration.
Oui.
Mais Defferre s'était battu, il avait réussi à faire intégrer dans la Constitution, puisque maintenant notre Constitution dit que la France est une république.
Oui. Une indivisible et décentralisée.
Et décentralisée.
c'est d'un grotesque, rien que ça. Donc, ça mériterait un zéro pointé pour les constitutionnalistes qui ont laissé passer cette chose-là.
Mais en fait,
cette absurdité,
donc,
oxymore.
Un oxymore. Donc, on a cet oxymore. Mais alors, est-ce que vous pensez que des mouvements comme les Gueux, par exemple...
Ben oui, c'est très intéressant. Mais ça n'a pas d'aboutissement politique.
Mais oui.
Ça n'en a pas, comme les Gilets jaunes. Du coup, ça a été... récupéré avec la volonté d'ailleurs de... Comment s'appelait-il ? C'était Castaner. Castaner s'est arrangé pour... Bon, comme ils font toujours alors, dans la République du ministère de l'Intérieur, vous avez une vraie police politique, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de créer les incidents nécessaires pour permettre à l'administration d'intervenir et à l'État d'intervenir. Donc on a créé les incidents et on laisse faire les incidents. C'est comme pour les banquets populaires. Là. C'est tellement facile. Il y a toujours trois corneaux qu'on peut exploiter.
On peut utiliser.
Et c'est toujours extrêmement facile de créer des provocations.
C'est la méthode de De Gaulle.
Mais bien sûr, ça a été la méthode des barbouzes. La moitié des attentats de l'OAS, c'était en fait c'était les barbouzes qui les commettaient et qui les mettaient sur le dos des pauvres gens qui se laissaient malheureusement manipuler. Donc, oui, c'est ça. Je crois que donc, la question que vous me posiez, c'était de savoir si ça peut aboutir. Le grand drame, c'est qu'on voit très bien que dès qu'il y a... dès que l'État républicain, j'entends, en tant que républicain, pas en tant qu'État, sent qu'il y a une contestation dans le pays, il fait tout uniquement pour conserver son pouvoir. C'est pas de répondre aux besoins des gens, c'est pas de satisfaire, c'est qu'est-ce que je fais pour arriver à manipuler cela et à le réduire à néant. Et dans le cadre républicain, ces gens-là ne trouvent pas une expression politique. Ils ne la trouvent pas. Même le Rassemblement national n'y arrivera pas. Et dire, y arriverait-il ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Est-ce que demain, supposons qu'il y ait un chef de l'État digne de ce nom, qu'il y ait un gouvernement avec des gens compétents et puis un peu moralement tenus, qu'est-ce qu'ils font à Bercy ? Qu'est-ce qu'ils font rue de Grenelle ? Qu'est-ce qu'ils font avec l'éducation nationale ? D'ailleurs, les professeurs eux-mêmes ne peuvent plus rien faire. Plus personne ne peut rien faire. On a créé une situation épouvantable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, non ? Alors, si en plus de ça,
dans quelle direction faut-il s'engager pour une solution ?
Eh bien, moi, je crois qu'il faut que les Français réfléchissent sur... Comme de toute façon, on va vers des crises à répétition qui vont devenir de plus en plus importantes et qui vont surtout atteindre la vie même des gens, c'est-à-dire l'essence, les déplacements, la vie économique, la vie financière. Lorsque les taux d'intérêt passeront à 4%, ce qui va venir à 5% et 6%, et qu'il ne faudra pas chercher 6 milliards, mais qu'il faudra chercher 100 milliards pour arriver à payer ne serait-ce que la charge de la dette, eh bien à ce moment-là, il faudra se poser la question des institutions. Moi, je crois que cette question des institutions qu'on a considérée comme secondaire pendant deux siècles, selon la pensée même d'ailleurs de Charles Maurras, c'était sa pensée profonde, elle est au centre du problème. Voilà, elle est au centre du problème, la question des institutions. Et ce serait bien que l'Église elle-même revienne sur sa prétendue indifférence à la question institutionnelle. Parce qu'il
y a des institutions qui font du bien et d'autres qui font du mal. Hein.
Mais bien sûr. De même qu'il n'y a pas plusieurs sortes de familles. On a détruit l'autorité parentale et on a détruit l'autorité paternelle, sous prétexte qu'il y avait des pères indignes. Mais d'abord, les pères indignes, on les a multipliés, on les a créés, parce qu'il n'y a plus de moralité publique. Et qu'on ne sait précisément plus ce que c'est que la paternité. Alors on remet en cause la paternité, comme on remet en cause tout ce qui peut apparaître comme une structure monarchique et humaine, monarchique et humaine, parce que contrairement à ce que l'on croit, la monarchie, ça ne va pas du tout avec le totalitarisme. Le totalitarisme va précisément avec l'idéologie républicaine. Hitler est le produit d'une élection. Enfin, il faut quand même le rappeler. Ce sont des choses fondamentales. Alors, je ne dis pas que les empereurs allemands étaient ce qu'il y avait de mieux, mais à la limite, au moins on peut discuter avec un individu qui se sent responsable de son gouvernement et de son État. Ça devient impossible de discuter avec un idéologue.
Alors moi, je me souviens dans mon enfance où j'étais très républicain parce que j'avais été élevé
par votre grand-mère.
Par ma grand-mère républicaine. Et donc on m'appelait Jacques le Républicain. Et j'avais un ami de mon père qui était très royaliste. On a été tellement royaliste qu'on l'appelait roi. Et il y avait cette formule qui m'avait sidéré. Je préfère un roi fou à un roi élu. Oui. Et j'avais dit, mais pourquoi vous dites ça ? Il me dit, parce que le roi élu, de toutes les façons, il va devenir fou, mais complètement. Tandis que le roi fou, il peut avoir des accès de lucidité.
L'autre, il n'en a pas du tout. Exactement.
Et alors, en fait, maintenant, quand vous parlez d'Hitler, c'est vrai qu'on a vraiment...
Parce que tout le monde ramène tout à Hitler.
Bon. Ben oui, non, mais c'est vrai. Non, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez frappant.
Réduction à Hitler.
Réduction à Hitler, mais il a quand même été le roi élu.
Mais bien sûr.
Et complètement cinglé.
Bien sûr, bien sûr.
Et on ne peut pas remettre en cause parce qu'il a derrière lui l'élection.
Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes articles, j'essaie de faire comprendre aux gens que la République, c'est l'absence de roi, ou pire, c'est la création d'un faux roi. Et il n'y a rien de pire qu'un faux roi. Rien de pire qu'un faux roi. C'est-à-dire un type qui est là et qui se prend pour le roi, comme vous l'avez dit, ça rend fou.
Ça rend fou. C'est le cas de notre président actuel.
Bien sûr. Mais c'est le cas de tous, là. Ils sont maintenant 40 à vouloir être le faux roi à la place du faux roi actuel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y en a pas un seul pour dire mais ces institutions sont en elles-mêmes non seulement dérisoires, c'est dérisoire. S'imaginer qu'on prend la place de Saint-Louis.
Moi, je me souviens toujours de cette formule de Léon Daudet qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune avocat, précisément parce que j'étais jeune avocat. Et il disait, il n'y a pas un avocat pelliculeux qui soit fait applaudir par 30 personnes dans une arrière-salle de bistrot qui ne se voit président de la République.
Exactement.
Et c'est vrai ça. Que... Bon. Et donc, on a ça maintenant.
Qu'est-ce que c'était que Gambetta? C'était pas plus que ça, hein. Un avocat, pardonnez-moi.
Pelliculeux.
Pelliculeux. Et qui a fait semblant d'être national alors qu'il n'était absolument pas national. Il était gambettiste, c'est tout. Et son obsession, c'était d'avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il fallait détruire les autres pouvoirs, et en particulier le pouvoir de l'Église. Donc, tous ces gens-là se sont acharnés à détruire systématiquement en prétendant se substituer. Alors, ils ont pris l'éducation nationale. On voit le résultat aujourd'hui. Pendant un moment, ça a marché parce qu'ils imitaient ou ils étaient en concurrence. Maintenant, on a bien le résultat de l'idéologie républicaine et démocratique française, je le spécifie bien, dans l'éducation nationale. On va avoir le même résultat à la santé, partout, dans tous les domaines. C'est ce qui nous arrive. Et si on ne fait pas un jour la réforme qu'il faut faire, mais alors on me dira, mais c'est pas possible. Mais je sais bien que c'est pas possible. C'est pour ça que mon espérance est surnaturelle et que j'espère qu'un jour, il y aura les conditions pour que ça soit possible. Et si ce n'est pas possible, c'est grave.
Oui, mais il y a quand même une nécessité, comme vous disiez, une nécessité physique et une nécessité sociale qui fait que les familles, elles ne peuvent pas non plus vivre n'importe comment.
Elles ne peuvent pas durer.
Elles ne peuvent pas durer.
Elles seront toutes atteintes. Oui.
En tout cas, merci beaucoup, Hilaire. Je crois qu'on arrive...
Au bout de notre affaire. Et merci, et donc
dans un mois, notre Arlésienne sera peut-être là. J'ai eu un message vraiment adorable d'elle, me disant je joue de malheur parce que je suis. Bon.
Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de Jacques Trémollet de Villers, dirigé par Jacques Trémollet de Villers, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 23 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.